Bonjour, soyez donc les bienvenus, 14h-15h, vous le savez, c'est La Parole aux Français, une heure d'émission consacrée au sujet qui vous concerne au plus près. On vous donne la parole d'ailleurs, vous pouvez déposer vos témoignages sur l'adresse suivante, témoin@cnews.fr. Mais tout de suite, priorité à l'info, et l'info cet après-midi, c'est l'excellent Simon Guillain.
Rebonjour cher Thierry, et bonjour à tous. On commence ce journal avec ces images, celles de l'hommage national rendu au dernier militaire à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Léon Gauthier est décédé lundi à l'âge de 100 ans. Une cérémonie a été présidée à Ouistreham par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui a tenu un discours que vous avez d'ailleurs pu suivre sur notre antenne, et on va écouter un extrait de ce discours.
Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires, résolus à accomplir l'extraordinaire. Incarnation de cet esprit de résistance si français et au fond si républicain. En février 1940, il voulut s'engager pour défendre la France. Alors âgé de 17 ans, il ne pouvait servir que dans la marine, la seule armée qui acceptait les mineurs. Alors va pour la marine, pourvu qu'il puisse y prouver sa bravoure.
Vous l'évoquiez, Thierry, dans votre sommaire, le maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Un mariage qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et sachez qu'aux yeux de la loi, eh bien, il est obligé d'officialiser cette union. Robert Ménard était sur notre antenne il y a une heure et demie exactement. On va l'écouter.
Moi, je ne veux pas être le bouc émissaire des insuffisances de l'État et des promesses qui sont non tenues. C'est juste ça, mon problème. C'est qu'on nous renvoie à nous devant des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. L'État doit appliquer sa loi, faire respecter sa loi, faire respecter ses engagements. C'est la seule chose que je demande. Et si aujourd'hui, je me mets dans cette situation délicate, c'est juste pour attirer cette attention, pour dire, on ne peut pas dire, les maires, ils sont formidables. Vous avez entendu, en ce moment, tout le monde nous tresse des lauriers en nous disant qu'on est formidable. On est peut-être formidable, mais il faut peut-être nous aider un petit peu et pas nous acculer à des situations où je suis obligé de me mettre hors la loi. C'est la seule chose que je veux dire.
Et puis la nuit dernière, deux hommes soupçonnés d'avoir effectué des livraisons par drone dans la prison de Fresnes ont été interpellés. Selon la police, cela faisait plusieurs nuits que des drones survolaient l'établissement pénitentiaire. Un dispositif de surveillance a permis d'identifier les deux hommes qui ont été interpellés en possession justement d'un drone et de plusieurs colis. Une enquête confiée au commissariat de L'Haÿ-les-Roses a été ouverte. Olivier Grégoire s'est rendu ce matin au centre commercial Créteil-Soleil qui se situe dans le Val-de-Marne. La ministre déléguée chargée du commerce a rencontré sur place des commerçants touchés par les émeutes de la semaine dernière. Dans la journée du 30 juin, plusieurs magasins de ce centre commercial avaient été pillés et la police avait procédé à l'interpellation de 21 individus sur place. Le maintien de l'ordre est notre priorité, a affirmé Olivier Grégoire. On l'écoute.
D'abord, vous rassurez, sur ce week-end, on s'évitera des manifestations inutiles. Il est important que le calme revienne. Nous n'avons eu qu'un mot d'ordre du président de la République depuis 5 jours, 6 jours, le maintien de l'ordre. Oui, moi je suis ministre du commerce, des PME, du tourisme, aux côtés des commerçants, mais la première chose qu'on nous a demandé d'assurer, de vérifier et d'organiser, c'est le maintien de l'ordre, c'est notre priorité absolue. Et donc vous avez bien vu que les jours passés, on n'a rien eu, mais qu'il y avait toujours 40 000 forces de l'ordre mobilisées auxquelles je veux adresser mon soutien.
Certains d'entre vous sont très chanceux et vont prendre la route des vacances ce week-end. On va regarder ensemble ce que prévoit Bison Futé sur les routes. C'est orange dans le sens des départs, vous le voyez aujourd'hui. Et c'est orange, pardon, dans le sens des départs, et c'est même rouge en Ile-de-France. Pour la journée de samedi, Bison Futé voit orange et rouge dans le Grand Ouest et dans le Nord. Enfin, pas de circulation, on va le voir ensemble, et vous le voyez à l'antenne, prévu pour ce dimanche. Et malgré cette excitation de rejoindre votre lieu de vacances, eh bien, soyez très prudent, bien sûr, sur la route. Le risque d'accident augmente si la nuit passée n'a pas été suffisante. La somnolence est la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Les explications de Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant? Si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit écourtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer. Une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule.
C'est d'ailleurs des stratégies assez classiques, hein, de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
Autre recommandation, s'arrêter toutes les deux heures, mais cela n'est pas toujours respecté.
Je ne m'arrête pas toutes les deux heures, je m'arrête pour faire le plein.
J'essaye de respecter, oui, les deux heures, mais si je me sens bien, j'y vais.
Ça dépend de combien de chemin il me reste après, entre les deux heures obligatoires, entre guillemets, et l'endroit où je dois arriver.
En 2021, 131 accidents mortels étaient liés à la somnolence au volant.
Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Lui n'est pas sur la route des vacances. Il vous attend. Vous avez de la chance. C'est Thierry Cabanne, bien sûr, pour la parole aux Français.
Merci, mon cher Simon Guélin. On vous retrouve à 15h et à 14h30. Qui est-ce qui présente le flash?
Vous aurez la chance de retrouver Somaïa Labidié. Vous le disiez, je vous retrouve à 15h pour le Grand Journal.
Merci, mon cher Simon. À tout à l'heure. Allez, la parole aux Français, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec moi pour commenter l'actualité. Christian Proutot, fondateur du GIGN, soyez le bienvenu. Je suis toujours ravi de vous avoir à mes côtés, mon cher Christian. Je suis ravi de vous avoir également, Éric de Rigmaten, journaliste économique CNews. On a beaucoup de sujets, vous verrez. À la fin de l'émission, on parlera commerce, un sujet un peu pour vous aussi. Je vous en parlais dans Midi News. Le maire de Béziers, Robert Ménard, qui était mon invité, refuse de marier un homme sous EQTF. Le mariage était prévu à 11h, il n'a pas eu lieu. Le futur marié est un Algérien, je le rappelle, en situation irrégulière. Sa fiancée est une Française de 29 ans, sans emploi. En refusant de célébrer cette union, Robert Ménard, qui nous a parlé tout à l'heure, s'expose, il le sait, à des poursuites judiciaires. On va regarder le reportage d'Adrien Spiteri, et puis nous serons avec, dans quelques instants, une avocate en droit des étrangers, Anan Arbad. Mais tout de suite, le rappel des faits avec Adrien Spiteri.
L'union doit avoir lieu ici, dans la mairie de Béziers, aujourd'hui. Mais le maire de la ville, Robert Ménard, refuse de procéder au mariage. Le futur marié fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Ce type est en situation irrégulière. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier.
Robert Ménard suspecte un mariage blanc. Il craint que cet homme se marie uniquement pour devenir français. Dans la loi, après 3 ans de mariage, l'administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire. Après 4 ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française. Il y a plusieurs semaines, le maire de Chalon-sur-Saône s'est retrouvé dans la même situation, mais a dû céder après des mises en garde de la justice.
L'affaire est remontée au procureur général de Dijon, qui, et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais tant de mois pour procéder au mariage, sans quoi je risquais 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Selon le ministère de l'Intérieur, le mariage n'empêche pas l'expulsion d'une personne en situation irrégulière.
Alors, ce matin, c'était un peu mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté de la mairie de Béziers. Que s'est-il concrètement passé? On écoute Stéphanie Rouquier, qui est notre envoyée spéciale.
Comme Robert Ménard l'avait annoncé, ce mariage n'a pas eu lieu. Les futurs époux, entourés de quelques invités, se sont présentés en mairie peu avant 11h. Ils sont entrés dans la cour. Le maire est venu leur expliquer qu'ils ne célébreraient pas leur union. Puis les portes se sont refermées. Ils sont restés un peu plus d'une heure dans cette cour. Le couple était très tendu. On a pu assister à quelques échanges vifs avec des habitants présents sur place. À savoir que dans un premier temps, les futurs époux qui refusaient la présence de journalistes ont fini par nous parler. Le futur marié, un Algérien âgé de 23 ans, sous OQTF, est déjà condamné pour vol et agression, nous a expliqué qu'il avait bien compris que le mariage ne se ferait pas aujourd'hui, mais qu'il irait se marier ailleurs, dans une autre ville ou même en Algérie, et qu'il reviendrait après en France. En début d'après-midi, le couple et leurs invités ont quitté la mairie en expliquant qu'ils comptaient à présent porter plainte contre Robert Ménard, qui a refusé de les unir.
Stéphanie Rouquier, notre envoyée spéciale à Béziers. Avec nous, comme invité, priorité, la parole aux Français, Anan Arbad, avocate en droit des étrangers. Soyez la bienvenue. Anan, on va commencer le débat avec mes deux invités, mais que vous inspire cette histoire, Anan?
Alors, je pense que Robert Ménard a créé une vague sur laquelle il surfe, tout simplement. Il a bien conscience de l'illégalité de son action, mais il a surtout conscience des bénéfices qu'il peut en apporter sur le plan électoral. Donc je pense clairement que Robert Ménard, c'est une action, je dirais plutôt politique, une action aussi au niveau médiatique, plus qu'une action sur le droit et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, sur l'illégalité de cette décision. Et surtout, à mon sens, il ne peut soutenir qu'il y a un mariage blanc alors que le procureur de la République, qui a eu communication de l'audition, a considéré le contraire et n'a pas jugé utile de faire une procédure qui existe, qui est la procédure d'opposition à mariage, et de signifier à ce couple une opposition de ce mariage. Donc Robert Ménard prend, je dirais, le rôle du procureur, et donc c'est une erreur de droit de sa part, mais au-delà vient indiquer qu'ils sont, si j'ai bien lu dans les médias, qu'ils sont à vue de nez le mariage blanc. Sauf que le mariage blanc doit se prouver et que venir soutenir que c'est uniquement à des fins d'obtention de nationalité française, c'est également une erreur de droit de la part de M. Ménard, puisque s'il est vrai, je ne sais pas, je ne connais pas le casier judiciaire de ce monsieur, mais s'il venait à être vérifié qu'il a eu des condamnations, il ne pourra pas, en tout état de cause, même par mariage, obtenir la déclaration de nationalité française. Donc j'estime effectivement qu'il y a là, je dirais, plus une action et une vague médiatique.
Alors, je vous propose de continuer le débat. Je vais vous faire réagir, mais Robert Ménard était mon invité tout à l'heure dans le cadre de l'émission Midi News. Regardez ce qu'il dit justement sur sa position et ce qu'il confirme. Écoutez-le et je vous fais réagir après.
Quand j'étais chez le président de la République à l'Élysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur qui est intervenu, les maires, on était des centaines de maires, tout le monde avait le même mot, il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non, c'est ce que j'ai fait ce matin. On a juste tous envie de dire, maintenant on va faire quoi? On va être ferme. Alors quand quelqu'un doit quitter le territoire français, on n'a qu'à l'appliquer. Et qu'on ne me dise pas et qu'on ne me réponde pas qu'on n'a pas pu l'appréhender depuis un an. Si on voulait vraiment l'appréhender, il suffisait de venir ce matin en mairie.
Anna Darman, réaction.
Alors, première chose, effectivement, il faut faire preuve d'autorité. Ça, il n'y a pas de difficulté. Je pense que sur les infractions, on doit faire preuve d'autorité. Mais là où il y a une difficulté, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'infraction. Le séjour irrégulier n'est pas une infraction en France. Personne ne nous dit aussi depuis quand date cette obligation de quitter le territoire français. Parce que l'obligation de quitter le territoire français, si elle a plus de 12 mois, elle n'est plus exécutoire. Alors, est-ce que c'est une obligation de quitter le territoire français qui est exécutoire ou pas? Deuxième point aussi important, M. Ménard invite à venir l'interpeller lors de son mariage. Alors, il faut savoir que la Cour de cassation, notamment par un arrêt en 2009, avait jugé que d'interpeller une personne alors qu'elle est convoquée en vue d'une audition pour un mariage en mairie, c'est une interpellation déloyale. Il faut peut-être rappeler que l'autorité n'empêche pas un état de droit avec, si vous voulez, un cadre. Bien évidemment qu'on doit mettre à exécution. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur le dit. Le ministre de l'Intérieur dit: le mariage n'empêchera pas l'éloignement, alors on parle d'expulsion, mais c'est l'éloignement s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, n'empêchera pas l'éloignement vers l'Algérie de ce monsieur si le ministre de l'Intérieur venait à vouloir exécuter cette obligation de quitter le territoire français, puisque l'obligation de quitter le territoire français, dont je ne sais pas si elle est exécutoire ou pas, encore une fois, si elle a été validée par un tribunal administratif ou si monsieur l'intéressé n'a pas fait le recours et qu'elle était exécutoire, le ministre de l'Intérieur peut mettre à exécution. Il n'y a pas de difficulté. La seule chose, c'est que l'intéressé pourra, dans cette situation, solliciter un visa pour venir en France en situation légale, en qualité de conjoint de Français. Mais la décision, je dirais l'obligation de quitter le territoire français, ne pourra être suspendue par un tribunal administratif que si le ressortissant algérien peut démontrer qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, puisque l'OQTF n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour si on rentre dans un cas de plein droit. Mais là, on a des informations qui sont, je dirais, pas assez précises concernant la situation pour analyser globalement toute la situation et le droit. Donc j'estime qu'au vu, en tout cas, des déclarations de M. Ménard qui n'est pas assez précis sur la situation, clairement, il y a des erreurs de droit qui sont commises.
Mais okay, on poursuit le débat, si oui. Vous voulez bien. Je vais faire... vous faire écouter le son du futur marié. En tous les cas, il devait être marié, il n'est pas marié. Il s'est exprimé devant notre caméra au micro de Stéphanie Rouquier.
Je trouve ça dégueulasse. On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble. Ça fait plus que 7 mois. Je trouve ça dégueulasse, monsieur. Tant que ma femme est avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je me marierai ailleurs, Même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, ne vous inquiétez pas, madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
Christian Proutot, je me tourne vers vous. Ça vous inspire quoi, cette histoire-là? Il a raison, de Robert Ménard, de tenir bon et de ne pas avoir célébré ce mariage ce matin.
On ne peut pas cacher le fait que Robert Ménard joue un rôle sur quelque chose qui lui donne l'opportunité de pouvoir exprimer le problème des maires quand ils ne sont pas d'accord avec une décision. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, le droit a été dit. Et c'est là où je ne comprends pas trop. Soit il y a vraiment un problème au niveau du mariage blanc. Je voudrais rappeler que celui qui se prête au mariage blanc peut être poursuivi. C'est du droit aussi. Donc, on ne l'a pas rappelé, donc je le rappelle. Puisque un mariage blanc, c'est une infraction. Donc contribuer à un mariage blanc, en particulier pour la française, si c'est prouvé, elle court des risques. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que le mariage n'empêche pas l'OQTF. Donc, soit l'OQTF est d'une urgence absolue, et puis l'État français, en particulier le préfet, fait exécuter la mesure. Donc, on ne connaît pas du tout le problème sur la mesure elle-même, si c'est juste parce qu'il a commis des infractions auparavant et que de ce fait-là, il est considéré comme ne devons pas rester en France, soit on trouve que ce n'est pas urgent, et mêler les deux pose un problème. Donc je repose juste un problème. Le mariage blanc, c'est une infraction. Il n'est pas avéré que c'est un mariage blanc. Le procureur l'a dit, a dit le droit. Le maire a le droit, moral, en tous les cas, considérer que lui, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'exercice, et il voudrait que ça se fasse. Cela dit, il incombe un certain nombre de problèmes dont on sait très bien qu'ils peuvent arriver, ils n'arriveront pas. Mais on peut toujours brandir le fait qu'il est en infraction, lui aussi, avec la loi, puisqu'il doit marier. Le mariage civil est quelque chose d'important, mais il faut le différencier d'un certain nombre d'autres de procédures et pas les mélanger. Si un jour on inscrit que quelqu'un qui est sous le coup d'une OQTF ne peut pas contracter mariage, c'est du civil, hein, le mariage. Alors là, ok, mais là, ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, il faut peut-être revoir ça.
Éric Durigmatin, très rapidement, ça vous inspire quoi, cette histoire? Il a raison, Robert Ménard, ou pas?
Écoutez, effectivement, il est dans son rôle. Et d'un autre côté, je pense qu'il a quand même le pouvoir de dire non, hein, en tant qu'officier ministériel. Il peut s'opposer. Après, si le mariage a lieu, ça peut être aussi annulé. Et puis après, les doutes, on les comprend. Vous savez, ils sont soumis à 48 questions, hein, les époux, les futurs époux. Donc ça a été quand même déjà passé au filtre. Ouais, le doute qu'on peut avoir, c'est qu'il y a quand même une différence d'âge. Il a 23 ans, elle a 6 ans de plus, elle a déjà 3 enfants. Vous voyez, est-ce que c'est pas douteux, voilà, c'est la question. Après, il y a une étude, une enquête qui doit être faite, il faut aller plus loin, mais c'est vrai que c'est quand même un cas un peu litigieux.
Adnan Ahmad, il risque quoi, Robert Ménard? Il sait, hein, il l'a dit tout à l'heure quand je l'avais comme invité, il sait qu'il va au-devant de graves ennuis. Il l'assume.
En réalité, ce qu'il risque, c'est effectivement, il y a une infraction pénale, donc il risque d'être poursuivi, que je doute, même si je ne connais pas les intentions du procureur de la République, mais il risque aussi une suspension de ses fonctions et surtout un retrait de son habilitation à pouvoir marier, puisque on l'a pas suffisamment dit, mais le mariage est un droit fondamental. Donc il est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, il est inscrit aussi dans la Constitution, donc c'est un droit fondamental, une liberté vraiment qu'on doit respecter. Et là, il y a une attente. Donc sur cette attente-là, le législateur...
Ah, on a un petit problème technique et de liaison. Vous m'entendez ou non? On a perdu Anan Ahmad, qui était avocate en droit des étrangers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pas d'autres précisions, mon cher Christian Proutot, sur cette affaire dont on parle beaucoup depuis ce matin et même depuis hier.
Non, je pense qu'il faudrait quand même qu'on pose les questions de droit dès que des questions comme celle-là se posent. C'est tout. Après tout, l'avantage de cette affaire, et je comprends Robert Ménard, il a raison de le faire, c'est de mettre le doigt sur un problème qui peut poser problème à l'officier ministériel. Voilà.
Allez, on va parler d'une autre affaire qui fait beaucoup de bruit, c'est un vice de procédure. 5 personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de Mons-en-Barœul dans le Nord, pendant les émeutes, ont été remises en liberté. Alors pourquoi? A priori, c'est à cause du parquet qui a oublié de signer un réquisitoire introductifs. 9 mises en examen ont également été annulées. On va écouter les explications d'Adrien Spiteri et on sera en direct avec Frédéric Laporte, qui est le maire de Montluçon dans l'Allier. Et sa commune a été également touchée par pas mal d'infractions. Mais tout d'abord, les explications d'Adrien Spiteri.
Pour ces dégradations et cet incendie commis à la mairie de Mont-Saint-Barreul en marge des émeutes, 9 personnes ont été mises en examen, 5 placées en détention provisoire. Problème ?
Il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir, alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat.
Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun, et on voit qu'à cause d'une erreur de plume, d'un juge qui a oublié de signer un acte, et quel acte ? Le réquisitoire introductif, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire. Et donc, du coup, on est obligé de tout refaire dès le début.
Après ce vice de procédure, le parquet de Lille a réagi. Il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
Christian Proutot, on retrouve dans quelques instants Frédéric Laporte, mais que vous inspire ce vice de procédure ? Ça tombe mal en tous les cas.
Oui.
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Dominique Schultz. Ça tombe mal.
Ça tombe mal, mais on est à peu près dans le même esprit que tout à l'heure. C'est le droit, rien que le droit. Et la procédure, il manque une signature, c'est stupide. Donc il va falloir tout refaire. Le problème, c'est que les oiseaux qui ont été pris vont peut-être s'envoler. Ça sera peut-être difficile de les retrouver. Mais ça n'empêche pas qu'on va pouvoir refaire la procédure derrière et la mise en examen.
Oui, c'est ce que disait Noémie Schulzer tout à l'heure.
Sauf qu'effectivement, ça fait des ordres.
Voilà. Ça fait des ordres.
On n'a pas besoin de ça actuellement. C'est pas difficile, c'est pas facile de les attraper, tous ceux qui ont commis ce genre d'infraction. S'ils ont été attrapés, la flagrance aurait dû être retenue avant la procédure qui a conduit la mise en examen. Bon, mais la flagrance, à mon avis, elle va être retenue malgré tout après. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, hein, vraiment, honnêtement.
Éric.
Non, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on est dans un pays, bon, on a quand même une justice qui est assez sérieuse, mais on peut annuler justement une procédure parce qu'il y a une virgule mal placée, parce qu'il y a une faute de frappe. Il ne faut pas oublier qu'une simple faute de frappe, là, bon, en l'occurrence, c'est une signature. Il y a aussi des délais, souvent, si on ne respecte pas un délai. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent faire capoter une décision de justice, on se dit, mais c'est pas possible. Puis c'est arrivé que des personnes soient libérées de prison hein, et absolument commettent des faits graves, tout ça parce qu'il y a un vice de procédure. C'est quand même assez sidérant.
Allez, avec nous, mes amis, Frédéric Laporte, maire de Montluçon dans l'Allier. Soyez le bienvenu, Frédéric Laporte. Je vous préviens, on va partir bonjour, en publicité bonjour dans quelques instants, mais je vous garde après la publicité. D'abord, bonjour, bienvenue. Que vous inspire cette histoire, ce vice de procédure ? Ça tombe mal, hein, c'est ce qu'on disait avec Eric de Rigmaten et Christian Proutot.
Bonjour à tous et à toutes. Oui, bien sûr, ça tombe assez mal parce que on connaît les difficultés des forces de l'ordre d'attraper ces délinquants. Maintenant, comme ça a aussi été dit, l'erreur est humaine et l'essentiel, c'est de pouvoir la rattraper, je crois. Et j'espère que ce sera le cas parce que, par contre, ce qui serait vraiment dommageable, c'est qu'ils ne puissent pas être sanctionnés. Et vis-à-vis de la population qui souffre beaucoup, là, ce serait vraiment terrible.
Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement chez vous, Frédéric Laporte ? Et on prolongera cette conversation après la pause pub.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a été calme jusqu'au week-end dernier. Le jeudi et le vendredi, il y a eu quelques feux de poubelle. Et puis, le samedi, une quarantaine d'individus ont investi un quartier assez commerçant, dans une avenue, une artère principale de la ville. Bien sûr, on brûlait les poubelles, un certain nombre d'objets et de mobilier urbain ont été dégradés. On commençait à s'attaquer aux vitrines. Moi, je suis intervenu parce que je vais régulièrement dans les quartiers discuter avec des jeunes qui peuvent avoir quelquefois des actes pas réfléchis et qui causent des désagréments. Ça m'arrivait plusieurs fois de pouvoir les calmer. Bon, là, ça n'a pas du tout été le cas. On verra. J'ai compris aussi par la suite, avec les interpellés, pourquoi ça n'a pas été le cas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des pierres avec mes adjoints et puis des mortiers. Bon, j'ai un adjoint qui a été blessé, mais pas de façon très très grave. Donc, pour le coup, il est ressenti depuis très longtemps de l'hôpital et il a repris ses fonctions. Mais après ces actes, ils s'en sont pris à la police quand elle est arrivée pour bloquer un carrefour important. Et après, ils se sont déportés dans une zone commerciale où là, ils se sont livrés à quelques pillages, notamment d'un magasin d'articles de sport et de vêtements.
Frédéric Laporte, je vous garde avec nous. Je vous garde avec nous. On continue de raconter ce qui s'est passé dans votre vie. Je vois que vous êtes dans votre voiture, donc vous ne démarrez pas, vous ne partez pas. La parole française, c'est jusqu'à.
Volontairement.
C'est jusqu'à 15h. On se retrouve dans quelques instants avec mes deux invités, Christian Proutot et Eric Derigmaten. La parole française, jusqu'à 15h. À tout de suite. Bienvenue sur CNews, c'est La Parole aux Français jusqu'à 15h avec mes deux invités, Christian Proutot et Eric Derigmaten, évidemment. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, à 14h30, c'est Somaya Labidi.
Emmanuel Macron a rendu hommage au héros Léon Gauthier sur les plages du débarquement. Tout son destin nous indique le chemin de salut pour notre patrie, a lancé le chef de l'État. Le dernier membre du commando Kieffer, qui avait débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944, est décédé ce lundi à Caen. Les suites de l'affaire Alain Delon, Hiromi Rollin conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. La dame de compagnie de la légende du cinéma est visée par deux plaintes des enfants de l'acteur, notamment pour des faits de harcèlement moral. L'enquête a été confiée à la section de recherche d'Orléans et à la brigade de recherche de Montargis. Et puis prudence face à cette nouvelle vigilance orage. Météo France a placé 10 départements du sud-ouest en vigilance orange pour des orages violents. En fin d'après-midi, une dégradation orageuse devrait arriver par le sud-ouest de la France, gagnant peu à peu vers l'intérieur, précise l'organisme de prévision.
Merci beaucoup Somaya Labidi. Rendez-vous à 15h avec le Grand Journal présenté par Simon Guilin. Donc, nous évoquons depuis tout à l'heure ce vice de procédure qui fait beaucoup réagir, qui s'est produit à Mons-en-Barœul où 5 personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie ont été remises en liberté. Et nous sommes toujours avec Frédéric Laporte, maire LR de Montluçon dans l'Allier. Vous êtes toujours là, Frédéric Laporte ?
Je suis toujours dans ma voiture.
Alors, Christian Proutot, fondateur du GIGN, avait une question à vous poser suite à votre première intervention.
Oui, monsieur le maire, j'ai noté que vous étiez attaché à maintenir le contact avec vos zones difficiles et que vous étiez dit, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, qu'en intervenant directement, comme vous en connaissez certains, vous pourriez peut-être les amener à un peu plus de raison et que, En voyant, vous avez compris pourquoi ils n'avaient pas réagi à votre venue, je dirais même au contraire. Pouvez-nous dire un petit peu pourquoi, tout d'un coup, en regardant les gens que vous aviez en face de vous, vous saviez que peut-être ce n'était pas ceux que vous aviez l'habitude, vous vous attendiez à voir ou quelque chose d'autre ?
Alors, en fait, il y avait une quarantaine d'individus, comme j'ai précisé, et il y en a 8 qui ont été interpellés, et en réalité, il n'y avait pas du tout de mineurs. C'était des adultes, et des adultes même pour certains très mûrs. Hein. Sur les 8 interpellés, ils avaient entre 20 et 31 ans. Et dans les quartiers, on a une association qui s'appelle CLPJ, c'est un centre de loisirs et de prévention de la jeunesse, qui est encadré par la police, ce qui nous permet, avec les services de la ville aussi, hein, qui ont eux-mêmes des actions, qui nous permettent de connaître beaucoup de jeunes mineurs. Et ça me semblait surprenant qu'ils m'accueillent comme ça. Mmh. Et c'est vrai que le lendemain, quand j'ai su qui était interpellé, je me suis dit, ah, voilà, peut-être un début d'explication. Alors, parmi ces interpellés, il y avait des gens du voyage, des Mahorais, et puis un Français, hein, tout à fait, j'allais dire, d'origine, pour aussi équilibrer les choses. Et puis un jeune qui était sous le coup d'une OQTF, puisque c'était un nouveau sujet tout à l'heure. Donc c'est très, très assez éclectique, mais malgré tout, pas de mineurs, que des majeurs. Et c'est ça qui m'a fait dire, l'action qu'on a menée peut-être vis-à-vis des très jeunes, quand même, elle porte ses fruits. À l'instant T, hein, parce qu'il y en a certains qui ont pu... Alors les Mahorais, ce n'est pas le cas, parce que ce sont des gens qui sont arrivés tout à fait dernièrement. Les gens du voyage, ils ne vivent pas dans les quartiers, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est une population qu'on n'a pas pu, assimiler, entrer en contact avec eux. Et on voit bien que c'est peut-être là la difficulté, hein, probablement d'ailleurs.
Frédéric Laporte, vous restez avec nous parce que je voudrais vous soumettre à un sondage CNews, peut-être que vous en avez pris connaissance, OpinionWay pour CNews, où un Français sur trois ne fait confiance à aucun politique pour gérer les émeutes. Je crois que vous êtes membre des LR et 32% jugent qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Ils veulent plus de fermeté. On voit les détails de ce sondage avec Geoffrey Defebvre, Sarah Varni, Augustin Donadieu, et je vous interroge en tant qu'élu. Et puis également en tant qu'LR. On verra le classement des LR. A tout de suite.
Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça ce qu'il faut faire.
Marine Le Pen, c'est une femme populaire et qui, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de... deux choses vraiment très importantes. Hein.
En tête du sondage OpinionWay, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivie de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouve en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupond-Moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
Frédéric Laporte, votre avis m'intéresse évidemment en tant qu'élu. On sait ô combien que votre mission est difficile, on l'a vu et on l'a vécu sur CNews, mais... ce chiffre est quand même incroyable, 32% jusqu'à aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. En tant que politique, vous en pensez quoi?
Je pense que d'abord, il y en a 68% qui sont répartis sur l'ensemble de la classe politique. Donc c'est déjà pas mal.
Oui, c'est une lecture, évidemment.
Optimiste.
Chacun voit midi à sa porte, évidemment. Moi, j'insistais sur ce 32% quand même, qui est un chiffre important, me semble-t-il, Frédéric Laporte. Mais je comprends votre lecture.
Mais bien sûr, mais de toute façon, je pense que les Français ont raison. On peut même dire qu'à 100%, aucun homme politique n'est capable de résoudre le problème. Ah, c'est toute la société qu'il faut changer pour résoudre le problème. Tout le fond de la société. À côté de ça, quand moi j'ai pris des mesures extrêmement fortes dès dimanche, 3 jours de couvre-feu total, même pour les adultes, dans la ville, à partir de 22h30, je n'ai pas eu 100% d'adhésion. Hier, j'ai fait un arrêté pour dire que je voulais, sous peine d'amende, que toutes les poubelles en plastique, tous les conteneurs, soient rentrés et pas laissés en ville. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent « oui, mais je ne vais quand même pas le mettre dans mon salon ». Vous voyez, donc c'est un peu schizophrène tout ça. Évidemment, si on veut véritablement arrêter les émeutes, il va falloir accepter un certain nombre de mesures extrêmement fortes et dures et qui va toucher l'ensemble de la population. Parce que le principe même d'une émeute, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance qui va la réaliser. Donc il faut contrôler à peu près tout le monde et maîtriser à peu près tout le monde pour éviter qu'il y en ait quelques-uns qui fassent ce genre de manifestation et dont la grande partie de la population est la victime.
Frédéric Laporte, réaction également sur le fait que c'est Marine Le Pen qui arrive en tête avec 27%, Jordan Bardella 22%. Les LR sont très loin, si on peut me montrer les LR sont très très loin. Il y a un problème là, non?
Écoute.
Regardez. 6% Éric Ciotti, c'est quand même. Et 3% pour David Lisnard. En tant qu'LR, ça vous inspire quoi?
Bah alors d'abord, en tant qu'LR, ça m'inspire qu'effectivement, ma force politique est un peu aujourd'hui dissoute, enfin pas dissoute, mais n'a pas une position extrêmement claire. Elle est entre M. Macron et Mme Le Pen, entre l'AREM et Horizon et puis le RN. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, on a du mal à exister. Pour autant, je ne vois pas parmi les personnes interrogées s'ils ont répondu sur le nom de M. Laurent Wauquiez, qui est pour nous un candidat et quelqu'un d'important dans notre parti. Certes, il n'est pas aux fonctions, mais pour autant, il est important. Et je pense que lui, il a aussi des idées qui peuvent remettre l'ordre. Alors, je ne sais pas si c'est l'ordre, parce que faut pas non plus. Là, on est à chaud, donc tout le monde veut de l'ordre. Encore une fois, les mesures répressives, elles ont évidemment leur utilité, mais pas que. Là, en plus, on n'est pas à faire, on n'a pas à faire des révolutionnaires, mais à des pilleurs. Donc, il faut aussi que les voleurs au quotidien aient des sanctions adaptées à ce qu'ils font, parce que là aussi, on réagit parce que ils sont dans la rue, ils pillent, ils cassent, mais des vols, il y en a tous les jours. Mmh. Pour autant, les gens ne sont pas condamnés.
Frédéric Laporte, voilà. On continue le débat. J'aimerais vous faire écouter ce que disait Frédéric Michaud, qui est le directeur général adjoint d'Opinion Way, justement sur le fait que Marine Le Pen et Jordan Bardella soient en tête dans ce sondage. On écoute et ensuite je poserai la question à Christian Poutou et Éric de Rigmaten qui réagiront aussi.
Le Rassemblement national, à travers ces deux figures d'ailleurs qui se sont bien répartis les rôles, hein. Marine Le Pen plutôt sur une forme de sobriété, de rareté médiatique, et Jordan Bardella plus à l'offensive, dans une forme d'activisme de la communication. Ce sont les bénéficiaires de la séquence. D'ailleurs, ce qui est très frappant aussi, c'est de voir à quel point ils ont pris l'ascendant sur les personnalités de droite. Éric Ciotti, 20 points derrière. Nicolas Dupont-Aignan, même chose. Éric Zemmour, 13%, c'est deux fois moins que Marine Le Pen. Bref, le Rassemblement national a pris l'ascendant.
Frédéric Laporte, sur cette analyse de Frédéric Michaud, avant que je donne la parole à Christian Proutot et Éric de Rigmaten.
Ah bah clairement, je ne peux être que d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'ailleurs, le sondage le prouve. Et puis, c'est vrai que nos leaders politiques ont du mal à s'exprimer. Mais Marine Le Pen, elle fait aussi des raccourcis. Systématiquement, en face de ces violences, elle met l'immigration et les immigrés. Et c'est pas non plus... encore une fois, je l'ai dit, moi, les 8 interpellés... globalement, à part un, ils sont tous français. Alors, peut-être d'origine du Pacifique, peut-être, mais en attendant, ils sont tous français. Donc, il ne faut pas non plus aller dans des raccourcis trop rapides, j'allais dire.
Christian Poutot.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. le maire. C'est que cette stigmatisation qu'utilise à tour de bras l'extrême droite sur l'immigration, bien sûr, elle parle à une certaine frange de Français, dont on sait que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils se rejoignent au moins sur ce sujet. Et on est à peu près dans les chiffres de Marine Le Pen, c'est-à-dire 27-30%. Ça, c'est ma première analyse. Mais là où je rejoins encore, une fois de plus, Monsieur le maire, en dehors de l'admiration que j'ai pour lui sur la manière dont il traite ces zones sensibles, et avec un certain résultat, semble-t-il, c'est que, et ça, par contre, ça m'inquiète, il y a 70% selon les chiffres de la justice, 70% des interpellés qui n'étaient pas connus, qui n'ont pas d'antécédents. Ça prouve bien un rapport...
Et beaucoup de jeunes aussi. Hein.
Pardon ?
Beaucoup de jeunes aussi.
Oui.
14-18 ans. Hein.
Oui, mais je parle de ceux qui sont majeurs.
Oui, oui. Hein.
Ce qui veut dire que le rapport au vivre ensemble, quand on vient piller, c'est quand même assez effarant sur le comportement de certaines personnes. Et on a vu des images, les images parlent d'elles-mêmes, de gens qui allaient faire leur marché dans ce qui avait été cassé. Alors, c'est quand même un problème sociétal. Il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'on ait ce pourcentage, alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir beaucoup, comme l'a noté Monsieur le maire dans sa propre ville, mais de beaucoup de jeunes issus des banlieues qui pourraient tout d'un coup exprimer à travers l'événement qui semble être au départ la cause de ces débordements, être présents pour expliquer leur présence. Pas du tout. 70% ne sont pas connus et sont majeurs.
Éric de Rigmaten.
Oui, c'est-à-dire que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, bon, 27% font confiance à Marine Le Pen, parce qu'il y a ce passé, il y a cette répression, elle en a parlé plusieurs fois, elle a dit qu'elle serait intraitable. Et si vous voulez, après, le problème, c'est que vous allez avoir des délevés de boucliers. Et qu'aujourd'hui, l'inquiétude, c'est de jeter de l'huile sur le feu.
Oui.
Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait cette répression féroce, si je puis dire? Moi, je regarde la surpopulation carcérale. Même si vous arrêtez tout le monde et que vous les mettez... Je regardais les chiffres. À Mons, vous avez 424 prisonniers pour 300 places. À Saint-Brieuc, 175 prisonniers pour 85 places. Donc, même dans des petites villes, si vous voulez, vous arrêtez les malfrats, vous en faites quoi? Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi la question des droits de l'homme. Hein, aujourd'hui, on le voit bien avec les associations, les ONG. À moindre dérapage, elles montent au créneau. Elles arrêteraient toute procédure. Donc ça serait vraiment pas ça. C'est pour ça que les Français, je pense, font pas confiance aux hommes politiques, parce qu'ils savent bien qu'on est dans un jeu très compliqué où jeter de l'huile sur le feu ne ferait qu'aggraver la situation.
Frédéric Laporte, le mot de la fin très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait ? L'élu que vous êtes.
Ah ben bah écoutez, alors nous, ce qu'on fait, c'est que...
Ne me remerciez pas pour la question, évidemment.
Non, mais je vais y répondre, assurez-vous. D'abord, on a multiplié les contacts dans les quartiers cette semaine avec nos correspondants pour savoir s'il y avait un problème, ce qui ne semble pas être le cas. Pour autant, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, même d'attaques du commissariat. Donc les forces de police et de gendarmerie, puisque je suis en zone police, mais on a aussi une compagnie de gendarmerie, mutualisent leurs forces. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris des dispositions. Dès dimanche soir, on retournera en couvre-feu total s'il le faut, mais on arrivera à retrouver le calme et ça sera tous ensemble. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que la semaine prochaine, j'appelle la population entière à se mobiliser contre, parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on se laisse enquiquiner, pour ne pas dire plus, par une très petite minorité de gens qui profitent de la situation. Donc il faut, je ne vais pas dire un soulèvement populaire, mais une action populaire pour bloquer tout ça. Il ne faut pas toujours attendre des autres, de l'État notamment, ou du maire. Ça concerne tout le monde. Quand la maison brûle, on est bien content de voir les pompiers, mais il vaut mieux éviter qu'elle brûle. Donc empêchons les incendiaires de mettre le feu.
Merci mille fois Frédéric Laporte d'avoir accepté de témoigner dans La Parole aux Français, maire de Montluçon LR, et merci de ce témoignage parce qu'on sait que votre mission est ô combien difficile et pas simple, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, il nous reste 8 minutes, on va parler d'un sujet qui vous passionne évidemment, oui. Mon cher Eric Matten, on va maintenant parler de la situation des commerçants après ces émeutes et des dégâts subis qui sont colossaux. On l'a vu aujourd'hui, Olivier Grégoire, ministre délégué des PME et du tourisme, s'est déplacé dans un centre commercial à Créteil-Soleil. Bilan de cette visite avec Adrien Fontenot et on sera avec Philippe Alloz, président de la Fédération des chambres syndicales buralistes en Ile-de-France. Les buralistes qui ont été sévèrement touchés. Mais d'abord, récit de cette visite avec Adrien Fontenot et on débat juste après.
Apporter des solutions mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation, je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter.
D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses très simplement. Que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi... demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone.
Des mesures donc, mais aussi un accompagnement psychologique. Au cours de son déplacement, Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser, mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes avec un lancement raté pour les soldes, un rebond est fortement attendu ce week-end.
C'était Adrien Fontenot. On va retrouver tout de suite notre invité, Philippe Alloz, président de la Fédération, je le disais, des chambres syndicales buralistes en Ile-de-France. Soyez le bienvenu, Philippe Alloz. Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez été fortement touché, vous, les buralistes, hein, durant ces émeutes. Hein, racontez-nous. Et puis après, je vous ferai réagir sur ce que a dit notamment Olivier Grégoire.
Nous avons été fortement touchés. Alors, je parle de ma région, comme vous le disiez, puisque l'Ile-de-France a été impactée. Nous avons 180 buralistes qui ont subi ces émeutes de façon très violente, de façon répétée pour certains, où les intrusions se sont passées durant plusieurs nuits, une mise en sécurité, donc il y a ces phénomènes de pillage, donc à destination de vouloir vraiment vider complètement nos bureaux de tabac. Voilà. Et structurellement, il faut qu'on se relève, on est à une semaine, à peu près 5 jours après cet arrêt un petit peu d'émeutes, il faut qu'on se relève, comme vous disiez, avec... avec toute la difficulté que ça comporte, et j'ai entendu les propos de Madame Grégoire. J'étais moi-même avant ce matin dans le 15e, avant d'aller à Créteil, elle est passée voir une buraliste. Donc on a pu échanger sur les propos. L'impact est énorme pour notre profession. On a été une cible.
Psychologiquement parlant, pour bon nombre de vos confrères, c'est très dur, je crois, je suppose.
C'est très, très dur. Je vous explique, 40% à peu près des points de vente ont pu rouvrir. On a été pillé et le reportage et le sujet précédent faisait état de mineurs, de gens du secteur, du quartier. On est un commerce de proximité et pour certains de ces 40% qui ont pu rouvrir, ils ont vu les gens qui les avaient pillés. Ils les ont revus dans leur établissement. Donc vous pouvez comprendre l'état psychologique dans lequel se retrouvent ces buralistes. Pour ceux qui ont réussi à se relever, le cauchemar continue presque. Et je ne parle pas des tracas administratifs dont on va peut-être parler.
Exactement. Eric Dorigmaten est notre journaliste économique. Vous connaissez bien, une question à vous poser.
Je vous comprends, monsieur. D'autant que j'étais avec Bruno Le Maire en déplacement à Arpajon, c'était mardi. Il a rencontré donc des commerçants qui avaient été pillés, hein, et notamment un concessionnaire Citroën qui a été brûlé. Enfin, c'était dans des situations vraiment extrêmes. Et ce qui est terrible à dire, hein, ça rejoint le sujet de tout à l'heure, c'est que ça a été filmé. Tout était filmé. Ils savent qui sont ces personnes. Ils peuvent les retrouver facilement. Maintenant, la réponse pénale, quelle sera-t-elle? Ça, c'est la grande question. Et je pense surtout aussi au pharmacien de Montargis, hein, qui vide son commerce. Il ne peut plus travailler parce que, soi-disant, il y a des assurances de perte d'exploitation qui devraient jouer. Mais si on n'est pas, si on n'a pas souscrit cette assurance perte d'exploitation, on ne touche pas un centime. Donc, ce sont des personnes, vous, commerçants, qui ne vivez que par votre travail. Il n'y a pas de chômage partiel pour l'instant, sauf erreur de ma part. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je vous plein pour la plupart, sachant qu'en plus, très souvent, je termine par là, les objets volés se retrouvent sur Internet en vente et neufs. Les chaussures Nike, par exemple, qui sont actuellement en vente à 50 euros la paire.
Alors, si je peux ne pas répondre, mais aller dans le sens, vous avez fait une très bonne analyse, dans le sens de bon commerce buraliste. Comme vous disiez, et vous avez parlé d'un réseau similaire au nôtre qui s'appelle les pharmaciens, il a été aussi attaqué en certains points. Vous disiez aussi la valeur marchande des établissements. Pour notre métier, la valeur marchande, donc le produit du tabac, ne nous appartient pas. Il nous appartient lorsqu'on vend le paquet. Donc, comme vous pouvez comprendre, la valeur marchande qui nous a été pillée, peu de buralistes vont pouvoir rentrer dans les clous avec les contrats d'assurance. Malgré ça, nous avons, nous, une mutuelle de la profession qui couvre à peu près 50% de la profession, mais il n'y a pas que cette mutuelle qui a la connaissance du métier, il y a d'autres assureurs qui sont en compte. Donc nous, notre difficulté, c'est un, psychologique, deux, économique, avec absolument, et là je lance un appel avec Madame Olivia Grégoire ce matin, on a eu le cas précis à ce que les structures bancaires se rapprochent au plus vite. Ils savent, ils connaissent notre cabis, des buralistes. Il faut impérativement qu'on ait une réponse. On est passé en temps de vacances, on a bien souvent un interlocuteur et on avait le cas bien précis où la buraliste n'avait pas été rappelée par sa banquière. Tous les acteurs bancaires vont faire le possible, mais ça, j'appelle quand même un grand message à ce qu'il y ait un vrai contact de proximité comme nous faisons au quotidien. On ne peut pas et on ne pourra pas faire attendre déjà ces buralistes pendant 8 jours. Les échéances continuent. Et sans c'est nous tuer dans la tombe. Donc voilà, il faut vraiment pour certains faire du cas par cas, absolument que les banquiers aillent chercher les cabis, retrouvent notre profession et viennent sur tous ces buralistes, juste pour un contact de proximité. Voilà, ça c'était un premier point. Sur le sujet de ce produit qui ne nous appartient pas et qui est complètement envolé, pour certains des fois, j'ai vu des stocks brûlés. Nous ne sommes pas propriétaires de ce stock et il va être très difficile de pouvoir se relever au travers des schémas d'assurance. Pour certains, on va nous dire mauvais gestionnaire, mais les stocks tournants n'ont pas été complètement couverts et on va se retrouver donc de la problématique de beaucoup de buralistes à l'impossibilité de pouvoir rouvrir, au-delà des dégâts, les points de vente. J'ai fait un petit test aussi, je vous laisse la parole. J'ai fait aussi au travers des 180 points, nous avons à peu près 75% de ces points de vente qui sont dans des villes et des zones dites sensibles. J'alarme parce que si nous n'ouvrons pas, nous rouvrons pas dans ces points, on va perdre. On était attaqué par ce marché parallèle et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était ciblé. Si on n'arrive pas à rouvrir, le produit sera dans la rue comme il l'est déjà de très forte façon. Mais on va perdre même le schéma du monopole. Voilà le schéma d'urgence que je peux établir aujourd'hui.
Merci mille fois, Philippe Allot. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des chambres syndicales buralistes en Ile-de-France. Merci pour ce témoignage. Et on continuera de donner la parole avec Eric de Ringmaten aux commerçants qui sont profondément touchés par ces émeutes. Hein. Et ça va être difficile pour certains.
Hein. Oui, ça va être très difficile. Et puis surtout, quelle sera la réponse du gouvernement? Est-ce qu'il va mettre la main à la poche? Alors, il dit qu'il va les aider. C'est vrai, il y a des exonérations de charges sociales pour vraiment les commerçants qui ont le pied à terre. Mais bon, c'est des cas les plus extrêmes.
Un mot de conclusion rapidement, 10 secondes, Christian. Juste, je suis désolé, mais j'ai laissé la parole à notre ami buraliste.
C'est tout à fait normal parce qu'eux, ils sont confrontés directement au problème. Mais on a la lecture de ce problème. C'est que l'État doit prendre des décisions qui vont au-delà de la couverture individuelle de chaque,
mais cette approche est psychologique.
De chaque commerçant. Parce que sinon, ils ne pourront pas rouvrir. Et c'est une perte d'exploitation assurée. Ouais. Et je pense que le ministre qui a déjà modifié sa grille de réponse avec le report en annulant les charges sociales, ce que devaient ces entreprises, fera en sorte qu'il y ait une aide, un peu comme il y a une aide en cas de catastrophe naturelle. Là, elle est pas naturelle, mais il faudra peut-être se décider à établir un état de catastrophe parce que le pillage est une catastrophe.
L'émission passe trop vite. Oui, il est déjà l'heure. Absolument. Fin de ce Parole aux Français, ça passe très vite. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci à vous, Christian Proutot. Merci, Eric de Ringmaten, évidemment. Merci à Benjamin Bouchard et à Célia Gouillère et à Bruna Sexas qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Jacques Sanchez à la formation. Merci à Audrey à la réalisation. Et merci également aux équipes en régie. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, c'est Simon Guilin que vous allez retrouver en ma compagnie pour le grand journal de l'après-midi. À tout de suite. Il est 15h, vous êtes bien sur CNews, l'heure du grand journal de l'après-midi qui vous est présenté par Simon Guilin. Rebonjour Simon.
Rebonjour cher Thierry et bonjour à tous. Un hommage national a donc été rendu à Léon Gauthier, dernier militaire français à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Une cérémonie présidée à Ouistreham par Emmanuel Macron. Vous l'entendrez, le chef de l'État, dans un instant.
Le maire de Béziers, Robert Ménard, a refusé de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Un mariage qui devait avoir lieu aujourd'hui. Les précisions de notre envoyé spécial sur place dans ce journal.
Clément Beaune annonce la mise en vente dès aujourd'hui de 200 000 billets intercités à un prix de 19 euros. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année près de 12 millions de voyageurs.
Et on commence ce journal, Simon, par ces images, celle de l'hommage national rendu à Léon Gauthier, dernier militaire français à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Une cérémonie présidée à Ouistreham par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a tenu un discours que vous avez pu suivre en direct sur CNews. On écoute.
Démobilisé en août 1945, Léon Gauthier retourna à la vie civile. Il ne pensait pas être un héros. Il concédait un certain courage quand il avait fallu en avoir. Ce temps-là était passé. Il pouvait aspirer à ce dont il avait été privé, jeune homme, la paix. Ouvrier carrossier en Angleterre, Léon Gauthier travailla encore en Afrique avant de reprendre ses études de droit et de devenir expert automobile. Il était enfin un père tranquille.
Léon Gauthier est né à Rennes en 1922. Il nous a quittés lundi à l'âge de 100 ans. Pour ses actes de bravoure, il a reçu la Légion d'honneur en 2021. Retour sur un homme d'exception avec Maxime Le Guay.
Un visage, celui du courage. Léon Gauthier était le dernier survivant du prestigieux commando Kieffer. Ces 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir gravé au fond de sa mémoire.
Kieffer nous a réunis, il dit voilà, vous connaissez ce qui vous attend. Il y a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront en tac, mais ça vous décidez, vous ne voulez pas partir, vous venez me voir, vous n'en voudrez pas. Tout le monde est parti.
Né à Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation, il reçoit la Légion d'honneur en 2021, un héros de guerre qui l'avait pourtant en horreur.
tout, c'est la misère, la guerre. Il n'y a pas très longtemps, vous trouvez peut-être idiot, mais enfin voilà, je pensais, j'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des orphelins, j'ai peut-être fait une veuve, j'ai fait peut-être faire pleurer une mère, j'en sais rien. Et ça, bon, j'ai pas voulu faire ça.
Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans, mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle.
Je vous le disais dans le titre, le maire de Béziers, Robert Ménard, a refusé de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français, un mariage qui devait d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui. Les futurs mariés sont pourtant arrivés à la mairie aux alentours de 11h, mais le maire leur a expliqué tout simplement qu'il ne célébrerait pas leur union. Les précisions de notre correspondante Stéphanie Rouquier.
Comme Robert Ménard l'avait annoncé, ce mariage n'a pas eu lieu. Les futurs époux, entourés de quelques invités, se sont présentés en mairie peu avant 11h. Ils sont entrés dans la cour. Le maire est venu leur expliquer qu'ils ne célébreraient pas leur union. Puis les portes se sont refermées. Ils sont restés un peu plus d'une heure dans cette cour. Le couple était très tendu. On a pu assister à quelques échanges vifs avec des habitants présents sur place. À savoir que dans un premier temps, les futurs époux qui refusaient la présence de journalistes ont fini par nous parler. Le futur marié, un Algérien âgé de 23 ans, sous OQTF, est déjà condamné pour vol et agression, nous a expliqué qu'il avait bien compris que le mariage ne se ferait pas aujourd'hui, mais qu'il irait se marier ailleurs, dans une autre ville ou même en Algérie, et qu'il reviendrait après en France. En début d'après-midi, le couple et leurs invités ont quitté la mairie en expliquant qu'ils comptaient à présent porter plainte contre Robert Ménard, qui a refusé de les unir.
Dans le reste de l'actualité, le policier qui a tiré sur Naël va rester en prison. Une décision prise hier par la cour d'appel de Versailles. Il n'a donc pas obtenu son placement en détention, en contrôle judiciaire. L'avocat du policier mis en cause conteste cette décision. On va l'écouter.
Tant qu'on n'a pas statué là-dessus et tant qu'il n'a pas été jugé par un juge ou par un tribunal ou par une cour d'assises, mon client est présumé innocent. Il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si il y a un risque d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, la loi prévoit pas mal de situations.
Et le risque de collusion, c'est un peu ça que dit la Cour d'appel. Oui, on ne veut pas qu'il se concerte avec son collègue.
Voilà. Dans ces cas-là, c'est le contrôle judiciaire. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle, puisque l'individu est présumé innocent.
Une affaire de justice qui intervient dans un contexte très tendu au sein de la police de Nanterre. Les menaces à l'encontre de la brigade motocycliste des Hauts-de-Seine se multiplient à tel point qu'il aurait été tout simplement demandé de ne plus patrouiller. Les précisions de Tanguy Hamon du service police-justice de CNews.
L'affaire de la mort de Naël se répercute sur les collègues du policier auteur du tir. En effet, selon nos informations, le fonctionnement de la brigade motocycliste des Hauts-de-Seine devient très compliqué. Les motards sont reconnus dans la rue, ils sont insultés, ils sont menacés. Pour éviter les risques, il leur a même été demandé d'arrêter les patrouilles et de ne sortir qu'en cas d'urgence. Il n'en reste de toute façon que très peu de policiers toujours actifs dans le service, puisque la quasi-totalité de la brigade a été mise au repos. Reste que les agents sont très inquiets, certains ont vu leur visage être diffusé sur les réseaux sociaux. L'identité d'un policier a même été confondue avec celle du tireur. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour lui et sa famille.
Et puis Olivia Grégoire s'est rendue ce matin au centre commercial Créteil-Soleil qui se situe dans le Val-de-Marne. La ministre déléguée chargée du commerce a rencontré des commerçants qui ont été touchés, vous le savez, par les émeutes de la semaine dernière. Dans la journée du 30 juin, plusieurs magasins de ce centre commercial avaient été pillés et la police avait procédé sur place à l'interpellation de 21 personnes. Il faut une indemnisation simple et rapide, a notamment affirmé Olivia Grégoire sur place.
D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi demandé à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone.
A signé que le rassemblement prévu demain pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré a été interdit par la préfecture du Val-d'Oise. Des manifestations étaient prévues à Persan et à Beaumont-sur-Oise. La préfecture explique son choix par une procédure contradictoire engagée avec le comité La Vérité pour Adama. Pour rappel, Adama Traoré est décédé pendant son interpellation en 2016 alors qu'il tentait de fuir un contrôle de police.
Et on poursuit ce journal avec cette information. Clément Beaune annonce la mise en vente de 200 000 billets intercités à un prix de 19 euros. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année près de 12 millions de voyageurs. On va écouter sur place le ministre des Transports.
On a beaucoup de débats en ce moment et c'est normal sur les prix du train. Beaucoup de Français veulent voyager en train encore plus, de manière plus accessible. Et donc sur ces trains intercités qui relèvent de la responsabilité de l'État, on fait une opération exceptionnelle, inédite. On met en vente là, en ce moment, dès aujourd'hui, 200 000 billets sur tous les trains intercités qui sont à 19 euros. C'est à peu près une division par deux du prix moyen des trajets sur l'intercité. C'est vrai pour les trains de jour, c'est vrai pour les trains de nuit. Les intercités, ce sont des trains de vie quotidienne, de vacances aussi, pour plus de 10 millions de Français.
Et puis, certains d'entre vous sont chanceux et vont prendre la route des vacances ce week-end, je les envie. On va regarder ensemble ce que prévoit Bison Futé pour ce premier week-end des vacances d'été. Eh bien écoutez, c'est orange dans le sens des départs aujourd'hui et même rouge en Île-de-France. Et pour la journée de demain, Bison Futé voit orange et rouge dans le Grand Ouest et dans le Nord. Pas de circulation prévue pour ce dimanche.
Et malgré cette excitation de rejoindre votre destination de vacances, eh bien soyez bien sûr très prudent sur la route. Le risque d'accident augmente si votre nuit de sommeil n'a pas été suffisante. Sachez que la somnolence est la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Les explications de Marine Sabourin avec Olivier Gangloff.
Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant? Si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit écourtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer. Une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule.
C'est d'ailleurs des stratégies assez classiques, de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
Autre recommandation, s'arrêter toutes les 2 heures, mais cela n'est pas toujours respecté.
Je ne m'arrête pas toutes les 2 heures, je m'arrête pour faire le plein.
J'essaye de respecter, oui, les 2 heures, mais si je me sens bien, j'y vais.
Ça dépend de combien de chemin il me reste après, entre les 2 heures obligatoires, entre guillemets, et l'endroit où je dois arriver.
En 2021, 131 accidents mortels étaient liés à la somnolence au volant.
La sécheresse et les restrictions d'eau s'étendent en France. Le manque d'eau ne concerne plus uniquement le sud de l'Hexagone. En Eure-et-Loire, par exemple, le département a dû également mettre des mesures en place pour limiter sa consommation. Explication, Thibault Marcheteau.
Olivier habite près de Chartres, en Eure-et-Loire, et depuis quelques jours, il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui, aucun problème, c'est même lui qui a pris les devants.
On suit les restrictions d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. Là, on n'a pas attendu effectivement qu'on ait une recommandation de la préfecture ou un arrêté de la préfecture pour le faire. On l'a fait de nous-mêmes. On ne cherche pas à arroser effectivement les pelouses, c'est vraiment gaspiller de l'eau.
La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet d'Eure-et-Loire a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation.
Concrètement, par exemple, c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, d'arroser tout ce qui n'est pas denrées alimentaires, c'est-à-dire potager. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale de remplir sa piscine.
Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque est tel que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines.
Et pour terminer ce grand journal de l'après-midi, on va parler d'un nouveau concurrent pour la SNCF en France. La compagnie espagnole Renfe a dévoilé son offre commerciale. On en parle tout de suite et c'est bien sûr avec Eric de Ritmaten.
C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Éric de Rietmatten, on connaît donc les tarifs pour les trains espagnols qui vont circuler en France cet été. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter ces billets finalement ?
Oui, bien sûr, c'est très très intéressant. Vous savez, déjà, il y a 31 000 billets qui ont été vendus depuis l'ouverture des réservations. Et donc, la semaine prochaine, démarreront donc les premiers TGV espagnols. Ils vont venir concurrencer la SNCF. Alors, il y a quelques lignes seulement. Hein. Vous avez Barcelone-Lyon pour commencer. Il y aura ensuite Madrid-Marseille en fin de mois. Mais ça tombe bien parce que, vous savez, la SNCF est perçue comme étant chère par les Français. Il y a eu des études qui ont été faites. Et donc, la compagnie espagnole va venir casser les prix en France, 29 euros le voyage hein, seulement. Il y aura même des billets à 9 euros sur certains tronçons entre Montpellier, Avignon, Béziers, Aix ou Narbonne. Mais ce qu'il faut voir derrière toute cette opération, c'est que l'ouverture à la concurrence qui est voulue par Bruxelles fait vraiment bouger les choses. Pourquoi ? Eh bien, regardez ce qui s'est passé avec les trains italiens, Trenitalia qui dessert actuellement Paris, Lyon, Turin, Milan. Ils ont engrangé l'an dernier 1 million de nouveaux clients. Et puis l'autre point positif, c'est que les prix ont baissé de 8% sur ces liaisons. Du coup, la SNCF s'est activée en mettant en place les fameux trains Ouigo, avec des prix très bas. Donc, on va conclure en disant que l'arrivée de l'Espagnol dans la course, ça a du bon. Et oui, parce que ça va pousser la SNCF à revoir ses prix. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, les intercités vont proposer des tarifs à 19 euros les billets. C'est vraiment un gros effort. On peut vraiment dire que la concurrence, oui, elle pousse à faire toujours plus.
Merci beaucoup, Éric de Rietmatten, pour ces explications.